C'est avec une joie profonde que nous sommes venus ici à Paray-le-Monial, en ce lieu béni, pour vivre ce dimanche de la miséricorde avec vous et en communion avec toute l'Église. Je suis accompagnée par ma communauté. Je suis toujours, vous le sentez, très émue de témoigner de cette grâce de miséricorde qui a été accordée à toute la congrégation et dont j'ai bénéficié et qui a été reconnue comme miracle. Le miracle n'est-il pas d'abord celui de la foi, de la prière ? Je me suis abandonnée avec confiance et laissée guider. Cette guérison, bien sûr, a bouleversé et touché toute ma famille religieuse. Et c'est ensemble que nous voulons rendre compte, par notre témoignage de tous les jours, de l'espérance qui nous habite. Alors, vous devinez que je ne peux pas vous raconter mon témoignage si je ne vous parle pas de Jean-Paul II et de notre mission. Dans son encyclique, l'Évangile de la vie, le pape Jean-Paul II nous invite à annoncer, à célébrer, à servir l'Évangile de la vie. Cet Évangile de la vie nous rejoint dans notre vocation propre de petite sœur des maternités catholiques. Le service de la famille, particulièrement au moment de l'attente et de l'accueil de l'enfant. La formation des jeunes dans le domaine de l'affectivité et de la sexualité. Nous magnifions la vie dès son commencement et essayons d'aider les couples à découvrir, par la manière dont nous allons les accompagner, que leur paternité et leur maternité humaine s'enracinent dans la paternité même de Dieu. Et c'est bien un apostolat de miséricorde pour notre temps. Le pape s'adresse aux chrétiens et à toutes les personnes de bonne volonté. Il donne un message d'espérance. Il nous redit la grandeur et la dignité de l'homme, quelles que soient ses fragilités ou ses handicaps. La valeur inviolable de la vie dès sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Tout homme est une histoire sacrée. Le combat pour la vie et la défense de la famille est plus que jamais important à l'heure où de nouvelles idéologies s'attaquent au projet créateur du Père. La demande de ma guérison a toujours été ordonnée à la mission que nous confie l'Église. C'est bien pour que je puisse continuer à travailler, me donner entièrement et participer à ce combat pour la vie que j'ai accepté, que l'on prie pour moi. C'est vous dire par ces mots combien la personne de Jean-Paul II, son rayonnement, ont toujours marqué notre institut. Dès le début de son ministère sacerdotal, l'abbé Carole Wojtyła s'est montré très attentif à la vie des couples et des familles. Les premières catéchèses du pape Jean-Paul II, lors des audiences du mercredi, ont porté sur la sexualité et le mariage. Et sa première encyclique, Redemptor Hominis, porte sur la vocation humaine. Ses divers enseignements, l'exhortation apostolique, Familiaris Consortio, la lettre aux familles, la lettre aux femmes, de nombreux discours et homélies, et bien sûr son encyclique Evangelium Vitae en particulier, constitue pour nous une charte précieuse. Et est-ce une coïncidence ? J'étais atteinte, comme le Saint-Père, de la maladie de Parkinson depuis 2001. Je n'avais alors que 40 ans lorsque j'étais au plus mal de mes symptômes. Vous le savez, je pense, on ne guérit pas aujourd'hui de cette maladie. Or, j'ai été subitement et totalement guérie dans la nuit du 2 au 3 juin 2005. Et cela, par le seul fait de la prière de toute ma famille religieuse. Malgré les expertises poussées, ma guérison n'a pas pu être expliquée par la science. Elle a surpris les plus incrédules. Mon dossier, parmi tant d'autres, a été étudié dans le cadre de la postulation de la cause de béatification de Jean-Paul II. Enquête, expertise médicale ont suivi et j'ai tout accepté de ce parcours du combattant. Près de 6 ans après la guérison, le 14 janvier 2011, le pape Benoît XVI a signé le décret de reconnaissance du miracle et ouvert ainsi la voie à la béatification de Jean-Paul II, le 1er mai 2011 à Rome. Cette guérison, elle a fait couler beaucoup d'encre, mais la médiatisation ne transforme pas ma vie. Je ne suis pas devenue une star. Aujourd'hui, plus que jamais, je reste une petite sœur parmi toutes les autres petites sœurs. Et je suis maintenant sur le lieu de notre fondation à la Maison Mère à Bourgoin-Jallieu, et non pas à Aix-en-Provence, ça fait 2 ans que j'ai quitté Aix, qui est un lieu d'accueil et d'écoute pour les familles. Revenons sur les faits pour vous expliquer ce qui s'est concrètement passé le 13 mai 2005 en la fête de Notre-Dame de Fatima. Le pape Benoît XVI rend officielle la dispense pour l'ouverture du procès de béatification de Jean-Paul II. Cela paraît extraordinaire. Une chaîne de prières s'instaure avec ferveur dès le lendemain. Les petites sœurs de toutes les communautés de France et du Sénégal prient avec foi tous les jours pour demander ma guérison par l'intercession du pape Jean-Paul II. Cette prière, elle est faite à l'initiative de Mère Marie-Marc, supérieure générale à cette époque. Nous y répondons généreusement. Nous aimions profondément Jean-Paul II et nous espérions que cette guérison pourrait apporter une petite pierre à la cause de béatification de ce pape merveilleux, ce pape de la famille. Ma congrégation, c'est-à-dire mes petites sœurs, s'attristait à l'idée de me voir très rapidement dans un fauteuil roulant, car j'étais encore jeune et j'étais aussi une bonne infirmière. Ne nous faut-il pas des bras, des mains, des regards et des cœurs pour dire aux familles, à toutes les familles, quelle que soit leur détresse, la tendresse d'un Dieu qui est Père. Alors maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Voici mes origines et le récit de ma guérison. Je suis née dans le nord de la France, à Cambrai, plus précisément à la maternité catholique de Cambrai. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. J'ai 3 sœurs et 1 frère. Je suis issue d'une famille catholique très pratiquante du côté maternel. C'est dans l'enseignement privé que j'ai suivi mon parcours scolaire. Mon enfance et mon adolescence se sont déroulées comme beaucoup de familles du Nord de la France, dans la simplicité, avec des joies et des épreuves, bien sûr. Un grand esprit de famille, de générosité et d'entraide ont marqué mon enfance et mon adolescence. Le 14 septembre 1982, j'entre au postulat chez les petites sœurs des maternités catholiques et découvre au fil des ans cette congrégation au service de la vie naissante et de la famille. Le 6 juillet 1983, lors de mon oblation, je reçois le nom de petite sœur Marie-Simon-Pierre et je commence donc mon noviciat. Puis le 6 août 1985, je prononce mes premiers vœux. De 1988 à 1992, je suis étudiante à Lyon et prépare le diplôme d'infirmière. En 1993, je m'engage définitivement par la profession perpétuelle. En 1992, à l'obtention de mon diplôme d'infirmière, je suis envoyée à la clinique de l'Étoile, maternité catholique de Provence, près d'Aix-en-Provence. C'est là que tout commence. La fatigue et la douleur s'empareront de mon corps tout entier. Devant l'augmentation des signes et de la douleur, en juin 2001, je me décide à aller consulter. Au retour de la deuxième consultation, c'est le choc. Le diagnostic est fait. J'apprends que je suis atteinte d'une maladie neurologique évolutive et le diagnostic de maladie de Parkinson est posé. La maladie est surtout latéralisée à gauche, ce qui m'handicape beaucoup, car je suis gauchère. La maladie évolue doucement au début, mais au bout de 3 ans, les symptômes s'amplifient. Les tremblements, les raideurs, les douleurs, les insomnies augmentent. À l'annonce de la maladie, j'ai de suite pensé à Jean-Paul II. Dans les jours qui suivirent, je fais un acte de foi et me confie au Christ et à Marie. J'avais la grâce de vivre en communauté, de travailler, de pouvoir me donner aux autres, de ne pas rester repliée sur moi. Je revoyais régulièrement le médecin neurologue pour réajuster le traitement. À partir du 2 avril 2005, jour de la mort du pape Jean-Paul II, la maladie n'a pas cessé de s'intensifier de jour en jour. Je sentais perdre mes forces, je ne pouvais plus écrire, et si par hasard je le faisais, j'étais illisible. Je ne pouvais plus conduire que sur des petites distances, et plus du tout ensuite. Il me fallait de plus en plus de temps pour accomplir mon travail. Il devenait difficile pour moi de tenir mon service de responsable de maternité, bien que rentrant les dossiers sur ordinateur. Après l'annonce du diagnostic de la maladie de Parkinson, j'éprouvais beaucoup de difficultés à regarder Jean-Paul II à la télévision. Il me renvoyait l'image de ce que j'allais devenir. Cependant, je demeurais très proche de lui par la prière. Le pape Jean-Paul II était pour moi un pasteur selon le cœur de Dieu, un grand homme. C'était un homme de prière et un apôtre de la miséricorde. Je l'ai toujours admiré. Il était proche de tous, du plus faible, du pauvre, du petit, du malade. Il était un défenseur de la vie, de la paix. De même, j'admirais sa force, son courage, son humilité. Je savais qu'il pouvait comprendre ce que je vivais. Son exemple me stimulait pour me battre et aimer cette souffrance, car sans amour, cela n'avait pas de sens. Aujourd'hui, je peux dire que c'était pour moi un combat au quotidien, mais mon seul désir était de le vivre dans la foi et d'adhérer avec amour à la volonté du Père. À Pâques 2005, j'ai voulu suivre en direct à la télévision la bénédiction de notre Saint-Père Jean-Paul II. Son état de santé déclinait au fil des jours et je savais intérieurement que ce serait la dernière fois que je le verrais. Toute la matinée, je me suis préparée à cette rencontre, sachant que cela serait très difficile pour moi. Cela a été dur pour moi, étant relativement jeune, d'imaginer que je serais un jour dans un fauteuil roulant. Un imprévu conduit sans doute par la main du Père ne me permit pas de le revoir. Puis le 2 avril 2005 au soir, nous étions réunis en communauté pour vivre en direct la veillée de prière sur la place Saint-Pierre grâce à la chaîne de télévision KTO. Avec mes sœurs, nous avons appris en direct le décès de Jean-Paul II. Pour moi, à cet instant même, tout a basculé. C'était l'effondrement. Je venais de perdre un ami, celui qui me comprenait et me donnait la force, l'énergie pour avancer. Dans les jours qui suivirent, c'est-à-dire jusqu'au 8 avril, jour de ses funérailles, je ressentis comme un grand vide, mais en même temps, j'avais la certitude qu'il était toujours présent. Au moment où Mère Marie-Marc a demandé la prière des communautés, j'étais en repos. Nous prenons ce temps chaque année pour effectuer notre retraite spirituelle. Au terme de ce temps de repos, je rentre dans ma communauté le 26 mai 2005, complètement épuisée par la maladie, et retrouve Sœur Marie Thomas. Elle me savait très fatiguée, mais personne ne pouvait vraiment réaliser que les signes de la maladie s'étaient amplifiés depuis le décès de Jean-Paul II, depuis le 2 avril 2005. Le 1er juin, je n'en peux plus. La douleur est de plus en plus intense, les tremblements augmentent. Je lutte pour avancer et tenir debout. Cette fois-ci, je suis réellement au bout de mes forces. Le 2 juin, après-midi, je vais trouver son mari Thomas et lui demande un entretien. Nous étions dans la même communauté depuis 1992. Elle était au commencement sage-femme et nous avons travaillé ensemble. Puis elle est devenue supérieure de la communauté début 1995. Ceci pour vous dire qu'elle me connaissait bien et a vu évoluer progressivement la maladie de Parkinson. Sœur Marie Thomas est devenue supérieure générale en juillet 2007, lors du chapitre général succédant à Mère Marie Marc. Elle a participé ainsi à la préparation de la béatification puis de la canonisation. Je me revois encore dans ce bureau ce 2 juin. Je lui ai rapidement exposé ma situation. Je lui ai demandé de cesser mon activité professionnelle. Je savais qu'elle me comprendrait. Elle m'accueille et m'écoute avec bienveillance. Je lui dis simplement que je suis au bout de mes forces, qu'il faut envisager de me remplacer dans le service de maternité. Je lui dis que je ne peux plus écrire. Elle voit de ses yeux que je n'en peux plus, mais cherche à m'encourager. Elle me rappelle que toutes les petites sœurs prient pour demander ma guérison. Elle me rappelle également que je dois partir au mois d'août en pèlerinage à Lourdes sur les pas de Jean-Paul II. Mes forces tenaient encore grâce à la perspective de ce pèlerinage que je n'avais pas pu réaliser en août 2004 lorsque le pape Jean-Paul II est allé à Lourdes pour bénir les malades. Je vous rappelle que son dernier voyage, c'était pour la France, à Lourdes en 2004. Et étant très mal en point à cette époque, en 2004, au dernier moment, j'avais renoncé à ce voyage à cause d'une grande fatigue et épuisement. Cela avait été une grande déception pour moi. Donc, Mère Marie Thomas me demande de tenir encore un peu. La décision sera prise en septembre. Elle me tend ensuite un stylo et me demande, pour m'encourager, d'écrire le nom de Jean-Paul II. Il est près de 17 heures. Je suis surprise de sa demande et je commence par refuser, car je sais que je ne peux plus écrire, mais elle ne le sait pas et cela m'est très difficile. Mon écriture est totalement illisible. Je prends donc le stylo et j'écris avec bien de la peine le nom de Jean-Paul II. Sœur Marie Thomas, devant cette écriture illisible, retient son souffle et ne dit plus rien. Seul le silence nous rejoint. Au bout d'un moment, après un très long silence, elle reprend la parole et dit avec un sourire d'encouragement et de confiance. Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot. Puis je me lève d'un bond et je la quitte avec le sourire. En ces instants, nous sommes enveloppés d'une certaine joie inexplicable. Au cours de cette rencontre qui a duré 3 quarts d'heure, Jean-Paul II était mystérieusement présent. En y repensant, je réalise qu'avec la paix dans le cœur, je me suis surprise à lui dire que j'acceptais d'être un jour dans un fauteuil roulant. J'ajoutais que cet état ne m'empêcherait pas de vivre ma consécration religieuse jusqu'au bout. Elle en a été touchée et heureuse. Notre entretien, bien que grave, fut à cause de cela un moment de bénédiction. Puis la fin de la journée se déroule comme les autres. Après la prière du soir, donc toujours ce 2 juin, à 21h, je repasse par mon bureau puis regagne ma chambre. Il était entre 21h30 et 21h45. Je me permets de vous faire un petit rappel. Jean-Paul II est décédé, donc le 2 avril 2005, à 21h37. Donc je rentre, il est entre 21h30 et 21h45. Je ressens alors le désir de prendre un stylo pour écrire. Cela m'a beaucoup surprise. Oui, une force en moi m'incite à vouloir écrire, et au fond de moi, je me dis, prends le stylo et écris. À ma grande surprise, les quelques lignes écrites étaient très lisibles. Je ne comprends pas très bien ce qui est en train de se passer. Puis je me couche. Cela faisait exactement 2 mois que Jean-Paul II nous avait quittés pour rejoindre la maison du père. 2 mois que les signes cliniques de la maladie avaient terriblement augmenté. À 4h30, je me réveille, stupéfaite d'avoir dormi, puisque je ne dormais quasiment plus la nuit. D'un bond, je sors de mon lit. Mon corps n'est plus endolori, plus aucune raideur, une souplesse et une légèreté dans tout mon corps. Intérieurement, je ne suis plus la même. Puis un appel intérieur, une force me pousse à aller prier devant le Saint-Sacrement. Un désir de rendre grâce pour ce que je suis en train de vivre. Je descends à l'oratoire, je prie devant le Saint-Sacrement. Mystérieusement, une grande paix m'enveloppe, une sensation de bien-être, quelque chose de trop grand, un mystère difficile à expliquer avec des mots. C'est inexplicable. Ensuite, toujours devant le Saint-Sacrement, je médite les mystères lumineux de Rosaire de Jean-Paul II. Je reste en prière jusqu'à 6h. Puis, à 6h, je sors pour rejoindre la communauté à la chapelle pour l'oraison suivie des laudes et de l'Eucharistie. J'avais environ 50 mètres à parcourir de l'oratoire qui est situé au sous-sol de la maison de communauté à la chapelle. Et là, je m'aperçois que mon bras gauche, qui était comme inerte, mort à cause de la maladie, se remet à balancer à nouveau pendant la marche. De même, j'éprouve une légèreté dans tout mon corps, une souplesse que je ne connaissais plus depuis longtemps. Au cours de cette Eucharistie, une grande paix et une grande joie m'envahissent. Nous étions le 3 juin. C'était la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, faite chère à Jean-Paul II. À la sortie de la messe, je suis convaincue d'être guérie. Ma main ne tremble plus du tout, mon visage est transformé. Je pars à écrire à nouveau et à midi, j'arrête brutalement tous mes médicaments. Je mets au courant sur Marie-Thomas dans l'après-midi et nous attendons la visite du neurologue prévue de longue date au 7 juin. Seule Mère Marie-Marc est mise au courant le 4 juin. Le 7 juin, le médecin constate avec un grand étonnement la disparition totale de tous les signes cliniques. Il a du mal à comprendre mon état alors que je ne prends plus aucun traitement depuis 5 jours. Le 7 juin au soir, Mère Marie-Marc confie cette grâce de guérison à toutes les communautés et nous demande de l'accueillir dans l'humilité et de garder la discrétion. Toute la congrégation a alors commencé une neuvaine d'actions de grâce à Jean-Paul II. Alors, malgré cet épuisement, depuis le 14 mai 2005, et cela me surprend encore, un verset de l'évangile de Saint Jean m'habitait et ne me quittait pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette phrase revenait en boucle dans mon cœur. Cette gloire de Dieu, je l'ai vue place Saint-Pierre le 1er mai, en ce dimanche de la miséricorde. Jean-Paul II venait d'être proclamé bienheureux, et de même le 27 avril 2014, où il a été proclamé saint. Nous étions partis en pèlerinage à Rome en bateau avec 700 pèlerins de France, dont 25 petites sœurs. À côté de sœur Tobiana, la sœur polonaise qui avait assisté Jean-Paul II jusque dans ses dernières heures, je marchais en direction du pape Benoît XVI, quand je me suis vue à mon tour face à la foule en train de porter les reliques du bienheureux Jean-Paul II. Je me sentais portée et légère, bien que très émue, mesurant la responsabilité d'une telle grâce. Je me suis battue intérieurement pendant des années pour repousser l'idée de l'évolution de cette maladie, même si je cherchais à vivre dans la foi et que je sais aujourd'hui que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La maladie m'a aidée à progresser dans la foi. Quand ma main ne pouvait plus écrire, je me suis surprise à accepter d'écrire le nom de Jean-Paul II, comme me le demandait Sœur Marie Thomas. J'avais fini par accepter au fond de moi d'être un jour dans un fauteuil roulant. La maladie ne pourrait pas m'empêcher de vivre ma consécration religieuse jusqu'au bout. Cette perspective ne me faisait plus peur. « N'ayez pas peur », nous avait dit Jean-Paul II. N'avait-il pas lui-même souffert et donné sa vie jusqu'au bout? Ce 3 juin 2005, jour de ma guérison, nous avons prié les litanies du Sacré-Cœur en union avec Jean-Paul II. En 1980, Jean-Paul II s'était rendu à la basilique parisienne du Sacré-Cœur de Montmartre. Et en juin 1999, il avait dit aux évêques de France « J'invite donc tous les fidèles à poursuivre avec piété leur dévotion au culte du Sacré-Cœur de Jésus en l'adaptant à notre temps pour qu'ils ne cessent d'accueillir ses insondables richesses, qu'ils y répondent avec joie en aimant Dieu et leurs frères, trouvant ainsi la paix, entrant dans une démarche de réconciliation et affermissant leur espérance de vivre un jour en plénitude auprès de Dieu, dans la compagnie de tous les saints. » Cela fait maintenant bientôt 19 ans que j'ai cessé tout traitement. Depuis ma guérison, j'ai retrouvé un rythme de vie normal et la totalité de mes activités. Je reste une petite sœur parmi les autres et il m'importe d'accomplir mon service dans la simplicité et dans la joie. Cette guérison, elle est pour moi physique, mais elle a touché tout mon être et mon être profond. Comme je l'ai dit souvent, j'étais malade et je suis guérie. C'est comme une seconde naissance et ma vie spirituelle en a été renouvelée. Ce que le Seigneur m'a donné de vivre par l'intercession de Jean-Paul II est un grand mystère difficile à expliquer avec des mots, tellement c'est grand, tellement c'est fort. Je suis davantage attirée par l'Eucharistie et l'adoration eucharistique et la prière du rosaire. Je reste très proche de Saint Jean-Paul II. J'ai l'impression qu'il nous regarde de la fenêtre du ciel et qu'il nous bénit. Quand je prie la neuvaine proposée par l'Église pour demander des grâces par son intercession, je sais qu'il est près de nous et de ceux pour qui nous prions. Il nous accompagne dans notre service apostolique. Je lui confie les joies, mais aussi toutes les situations difficiles. Je lui suis profondément reconnaissante et n'ai pas de mots pour exprimer à quel point. Le 2 de chaque mois à 21h, je prends un long temps de prière pour rendre grâce pour ce que le Seigneur a fait de grand en moi. Un temps de supplication pour les malades et pour toutes les personnes qui se confient à notre prière. Aujourd'hui, rien n'est plus comme avant, et je peux dire qu'un ami est parti loin de cette terre, et pourtant si proche de mon cœur maintenant. Le Seigneur me donne aussi un amour et une attention plus particulière pour les plus petits, les plus fragiles. Ceux que notre monde rejette si souvent, ces petits-enfants porteurs de handicap, et pour lesquels Jean-Paul II avait tant d'amour. Le regard des parents sur leur tout-petit est un regard d'émerveillement. Ils se laissent étonner et apprivoiser par cet être venu d'ailleurs qui est d'eux et pourtant différent d'eux. J'étais attirée par ces enfants si petits qui nous disent Dieu. Dieu, par le mystère de l'incarnation, s'est fait homme et tout-petit. N'est-ce pas bouleversant? C'est bien la prière de toute une congrégation qui a touché le cœur de Dieu. Nous recevons aujourd'hui encore beaucoup d'intentions de prière venues du monde entier et c'est toute notre famille religieuse qui intercède auprès du Père par l'intercession de Saint Jean-Paul II. Je sais ce que cela représente que de souffrir dans sa propre chair. Je compatis profondément avec tous ceux qui souffrent de maladies et je porte en ma consécration désormais plus spécialement les malades atteints d'une maladie de Parkinson ou autre maladie qui demande la prière de toute notre famille religieuse. Notre mission de petite sœur des maternités catholiques nous envoie aussi vers eux et nous appelle à dire au monde combien leur vie a du prix. En conclusion, je reprends les paroles de Saint Jean-Paul II lui-même, qui nous rejoint encore ici en ce jour. Nous venons ici à la rencontre du cœur transpercé pour nous, d'où jaillissent l'eau et le sang. C'est l'amour rédempteur qui est à l'origine du salut, de notre salut qui est à l'origine de l'Église. Nous venons ici contempler l'amour du Seigneur Jésus, sa bonté compatissante pour tous durant sa vie terrestre, son amour de prédilection pour les petits, les malades, les affligés. Contemplons son cœur brûlant d'amour pour son Père dans la plénitude du Saint-Esprit. Contemplons son amour infini, celui du Fils éternel, qui nous conduit jusqu'au mystère de Dieu. Fin de citation. Puis je vais faire référence à notre fondateur en cette fête du Sacré-Cœur. Le 31 mai 1940, en la fête du Sacré-Cœur, alors qu'il était encore vicaire général du diocèse de Grenoble, l'abbé Émile Guéry, qui deviendra notre père fondateur, a appris sa nomination comme archevêque coadjuteur de Mgr Jean-Arthur Chollet. Il deviendra ensuite archevêque de Cambrai. C'est sur ses armoiries une croix d'or chargée de deux cœurs, celui de Jésus et de Marie. La fête de la Divine Miséricorde est un appel à réapprofondir notre propre spiritualité. Nous sommes consacrés par notre vocation au cœur sacré de Jésus. De son cœur sacré jaillit la miséricorde divine. Revenir aux sources de cette spiritualité d'Église dans laquelle nous sommes enracinés nous fait prendre plus profondément conscience que notre institut a depuis toujours un lien profond avec la miséricorde divine. Cette guérison miraculeuse est une bénédiction pour notre institut et nous l'accueillons avec humilité. La demande de guérison a toujours été ordonnée à la mission. C'est pour que je puisse continuer à servir la vie et la famille que mes sœurs ont prié pour moi. Saint Jean-Paul II nous invite, à sa suite, à nous laisser renouveler dans notre manière d'exercer cet apostolat de miséricorde aujourd'hui. Annoncer, servir, célébrer l'évangile de la vie est devenu une urgence dans notre monde. Puissent des jeunes entendre l'appel à s'engager dans la voie que le Seigneur leur réserve, sans crainte de servir, de défendre la beauté de la vie et de respecter son mystère. Nous vivons notre vie de petite sœur avec Marie, la mère des vivantes, et faisons nôtre à chaque instant la prière de Jean-Paul II. Ô Marie, aurore du monde nouveau, mère des vivants, nous te confions la cause de la vie. Nous sommes heureuses de vivre cet apostolat de miséricorde dans les pas de Saint Jean-Paul II, qui nous bénisse en cette communion des saints qui fait merveille. Je vous remercie.